Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu la dernière fois que notre destinée était de monter au ciel, comme le ballon gonflé à l'hélium monte dès que la ficelle est coupée ou lâchée. Nous allons voir aujourd'hui qu'il y aura un jugement général. Il y aura deux jugements. Le jugement particulier juste après notre mort, puis un jugement général à la fin du monde. Bien sûr, le jugement particulier est très important parce que c'est lui qui déterminera quel est notre sort définitif, à savoir le ciel ou l'enfer. Et donc il est important de méditer, et saint Ignace recommande même de nous mettre au jour du jugement, de penser ce que le juste juge dira, nous dira le jour du jugement. C'est le meilleur moyen de bien nous y préparer. Et si nous voulons vraiment nous en pénétrer, je vous conseille vivement de suivre au moins une fois les exercices spirituels de saint Ignace qui établissent des bonnes bases sur ces vérités fondamentales, à partir de quoi il est très facile de construire une bonne vie chrétienne parce que nous tenons les deux bouts. Nous savons tout ce que Dieu nous donne par la grâce et nous savons quel sera le jugement. Et du coup, il est très facile de diriger sa vie. Je veux insister aujourd'hui non pas tant sur le jugement particulier que sur le jugement général, que l'on a peut-être moins tendance à considérer. À la fin du monde, il y aura un jugement qui sera général, c'est-à-dire tous les hommes, qui ajoutera au jugement particulier, d'une part qu'il sera public, c'est-à-dire que chacun entendra non seulement la sentence portée sur chacun des autres, mais également les motifs de la sentence, les raisons pour lesquelles un tel est sauvé, un tel est damné, de même que les autres entendront pour nous la sentence, j'espère bien qu'elle sera pour vous tous et pour nous et pour moi qui vous parle, la sentence du salut éternel, et les motifs de cette sentence. Le catéchisme du Concile de Trente a un chapitre très intéressant sur le jugement particulier, il s'étend très peu, et sur le jugement général. C'est lui que nous allons suivre aujourd'hui pour ce sermon. Le catéchisme du Concile de Trente, c'est-à-dire les pères du Concile, l'Église, commence par nous dire que nous devons désirer le jour du jugement, alors que, au contraire, nous avons tendance à le craindre. Pourquoi désirer le jour du jugement? Parce que nous avons désiré la venue du Christ dans son incarnation, qui était le seul moyen pour nous de nous sauver. Et nous devons désirer le retour du Christ qui achèvera l'œuvre du salut, qui scellera, comme par un sceau, l'œuvre du salut accomplie par le Christ. Nous devons le désirer parce que ce sera la manifestation glorieuse de la gloire du Christ. Nous devons le désirer parce que ce sera le triomphe des bons, parce que ce sera la punition des méchants, et la punition des méchants est une bonne chose, elle a été retardée ici-bas, enfin nous verrons cela tout à l'heure dans une autre partie du sermon. Elle a été retardée, mais il faut que tout cela éclate. Notre Seigneur a accompli auprès de nous un triple office, tout d'abord de rédempteur, par sa passion et par sa croix, deuxièmement d'avocat par son ascension, et il terminera par l'office de juge le jour du jugement. C'est très beau cela. On voit vraiment que toute notre... Nous n'aurons pas à être surpris, vous voyez. Toute notre vie est une vie de grande indulgence de la part de Dieu, de grande bonté. Et non seulement il nous sauve, mais il connaît notre faiblesse, donc il est notre avocat au ciel. Nous ne pourrons pas dire, en arrivant au jugement, que nous sommes pris au dépourvu, non. Bien sûr, l'homme peut s'aveugler. Mais l'aveuglement de l'homme est nécessairement volontaire, plus ou moins poussé par des méchants, mais il est toujours volontaire. Aucun homme ne pourra dire qu'il ne savait pas. Au contraire. Quelles sont les raisons du jugement général? La première raison, c'est que les hommes, après leur mort, laissent des conséquences de leur vie. Ils laissent des disciples, dans le bien ou dans le mal. Pas seulement les grands qui laissent des disciples. Tout père de famille, toute mère de famille laisse des disciples. Ils laissent un exemple qui va continuer à être suivi en bien ou en mal. Ils laissent des œuvres qu'ils ont fondées, des actions qu'ils ont posées, et qui vont porter du fruit après leur mort. Prenez Saint Benoît, le fruit porté par l'institution de la vie bénédictine par Saint Benoît est un fruit extraordinaire que nous n'avons encore pas fini de mesurer, et pour lequel nous n'avons pas fini de nous émerveiller. Monseigneur Lefebvre, qui a tant mérité, porte un fruit que nous voyons et que nous continuerons à voir, nous serons surpris de voir le fruit qu'il aura porté. Par conséquent, il faut que, après le jugement particulier au jour de la mort, qui nous concerne chacun d'entre nous, il y ait un jugement porté par Dieu sur la valeur, bonne ou mauvaise, de toutes ces choses que nous laissons à notre mort. Et cela nous montre à quel point nous devons faire attention à notre héritage, à l'héritage que nous laissons. Peut-être que certains d'entre vous me diront, monsieur l'abbé, il est bien tard pour nous avertir de cela, vous auriez dû nous le dire quand nous étions plus jeunes. Eh bien, vous voyez, même lorsqu'on est au soir de la vie, regardez le bon larron, il a mené toute une vie qui laissait un héritage mauvais. Mais ce qui va triompher, ce qui domine de l'héritage qu'il laisse, de l'exemple qu'il laisse, c'est sa confession à Jésus-Christ en croix et le salut. Alors pour lui, le jugement particulier a déjà été général et tout le monde le connaît. Mais justement, je vous prends cet exemple pour cela. Alors, vous voyez, mes bien chers frères, si vous êtes jeunes, faites bien attention. Faites bien attention. Vos œuvres vous suivent. J'espère que des jeunes m'écoutent. Vous entrez dans la vie, vous allez peut-être vous marier, ou devenir prêtre, ou religieux. Ne considérez pas que votre propre vie. C'est le drame aujourd'hui d'une fausse sainteté, de ne voir la sainteté que par rapport à soi, et non pas de la voir par rapport au bien que le Christ attend que nous fassions à l'Église et à la société des hommes en général. Mais la société des hommes, c'est l'Église. Enfin, concerne l'Église. Si vous êtes d'âge mûr, faites bien attention à cela. Il est encore temps. C'est peut-être une conversion qu'il faudra faire. C'est peut-être un réveil de vous dire « j'ai vécu pour moi, il faut désormais que je vive pour Dieu, c'est-à-dire pour l'œuvre que Dieu me demande de laisser après moi. » Et si vous êtes au soir de votre vie, alors qu'au moins ce soir de la vie soit une véritable lumière, peut-être d'un soleil couchant, mais le soleil couchant continue à éclairer, et les ombres qu'il porte sont très, très révélatrices. De tout cela, nous serons jugés, et c'est une bonne chose. Et nous devons désirer que tout cela soit jugé. Nous devons désirer que Saint Benoît reçoive la gloire qui lui revient pour tout ce qui a suivi sa mort. Que Monseigneur Lefèvre reçoive la gloire qui lui revient pour avoir réussi à faire des prêtres avec les pauvres hommes que nous aurions été s'il ne s'était pas occupé de nous. Nous aurions été dans le désarroi du monde moderne. Il est bon que les méchants soient punis pour tout le mal qu'ils ont semé et qui s'est développé et qui, hélas, a mûri après eux. Une deuxième raison du jugement général, c'est que Jésus-Christ rétablira notre réputation. Il est très fréquent ici-bas, on a cela souvent dans les psaumes, c'est une plainte fréquente dans les psaumes. « Seigneur, pourquoi traitez-vous ainsi les bons qui ne reçoivent pas de gloire, que vous semblez oublier? Pourquoi traitez-vous ainsi les mauvais qui sont comblés de bien ?» Et il faut qu'un jugement solennel déclare au vu et au su de tous tout le bien que le bon Dieu a pensé des bons, même lorsqu'il ne le disait pas avant, et il y a des raisons que nous allons voir à l'argument suivant. Le bon Dieu avait ses raisons pour ne pas déclarer le bien intégralement et trop tôt, comme il avait ses raisons pour ne pas déclarer le mal intégralement et trop tôt. Ces raisons, nous les avons dans l'Évangile, c'est le bon grain livré. Mais il faut que ce soit déclaré et que la justice soit rétablie. La troisième raison, c'est que enfin nous découvrirons la sagesse qui a guidé la providence divine en faisant ainsi tarder le triomphe des bons, en retardant la punition des méchants, la sagesse divine qui fait que les bons furent persécutés, que les mauvais furent dans une certaine abondance, toute chose que nous ne comprenons pas ici-bas, que nous avons beaucoup de mal à comprendre. Saint Augustin dit, si les mauvais sont dans l'abondance ici-bas, c'est parce que Dieu, sachant qu'il ne pourra pas les combler dans l'au-delà, leur donne au moins certaines satisfactions ici-bas, ce qui est terrible, terrible. Et nous voyons cela, et nous jalousons un petit peu ces satisfactions des mauvais, alors qu'en réalité, c'est un châtiment d'une certaine façon, puisqu'ils ne pourront rien avoir d'autre. Et nous découvrirons la sagesse de Dieu qui nous donne mille fois plus que ce que nous désirions. Et Dieu nous dira, mais pourquoi t'es-tu inquiété? Pourquoi avais-tu si peu de désirs et des désirs si terrestres, alors que toutes tes épreuves, voilà, elles ont porté un grand fruit, elles ont servi. La persécution des martyrs fut semence de chrétiens. Toute notre vie, toute la vie chrétienne, il y a une certaine persécution, il y a la croix à porter, et il y a tout ce que les mauvais nous font subir. Et nous découvrirons cette sagesse de Dieu. Ah, c'était ça, Seigneur. Il fallait les labours pour que vous puissiez semer. Et moi, je suis mort dans les labours, et enfin je vois la moisson abondante qui fut permise par ces labours. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Si nos vies ne sont pas à la suite de celle de notre Seigneur, une vie où l'on porte sa croix, où l'on est dans l'épreuve, elle ne porte pas de fruits. Et non seulement le jugement général fera éclater la beauté de ce fruit, comme je vous l'ai dit, mais nous découvrirons la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'il est bon de penser au jugement général, parce qu'il nous donne des vues beaucoup plus grandes que le jugement particulier. Il nous donne le vrai sens de la vie. Je pense qu'il y a eu une exagération, non pas à trop parler du jugement particulier, mais à en parler sans parler du jugement général. Et c'est comme cela qu'on fait une sainteté trop personnelle, personnaliste, une sainteté qui regarde uniquement nos qualités individuelles, notre amour individuel de Dieu, et qui ne voit pas l'ensemble de la providence dans laquelle nous sommes plus qu'un maillon, nous sommes une partie prenante, la providence universelle de Dieu qui s'étend sur tous les lieux et sur tous les temps. Et je vous disais, mes bien chers frères, mettez-vous face au juge qui reviendra au jugement général. Entendez la sentence qu'il proférerait aujourd'hui. Vous avez une conscience? Saint Thomas pose la question, connaissons-nous les actes qui seront cause de notre mérite et de notre démérite? Il dit oui, c'est dans le livre de vie, et ce livre de vie, nous le connaissons, il est ouvert devant nos yeux. Alors lisons-le. Quelle sentence le juste juge proférerait-il aujourd'hui sur nous, sur nos actions, pas seulement sur nos actions individuelles, mais sur le fruit que nous portons, sur le bien que nous avons fait, sur le mal que nous avons fait à autrui, pas seulement à nous, sur le service que nous avons rendu à l'Église? Il est évident que si nous avons si peu de vocation, c'est parce que les jeunes pensent peut-être au jugement particulier, mais non pas au jugement général. Il faut faire attention lorsque saint Ignace dit que nous avons été créés pour sauver notre âme. Il ne s'agit pas de voir ça d'un point de vue strictement personnel. Il faut voir que pour sauver notre âme, saint Ignace dit que nous devons honorer, louer, servir Dieu. Et tous les exercices nous montrent que Dieu a pour nous une ambition, non pas universelle bien entendu, mais qui s'inscrit dans l'universalité de la providence divine. Une dernière raison du jugement général, c'est que le jugement particulier, seule notre âme fut jugée, et là, puisque le jugement général aura lieu après la résurrection des corps, le corps participera au jugement, recevra lui aussi sa sentence d'avoir été un bon serviteur pour l'âme ou d'avoir été un mauvais serviteur pour l'âme. Je voudrais terminer par les signes avant-coureurs du jugement général. Il y a trois signes donnés par le catéchisme du Concile de Trente. La prédication de l'Évangile par toute la terre, ça c'est accompli, on peut le dire. L'apostasie générale, elle est bien avancée mais elle n'est pas encore générale. Et la venue de l'Antéchrist. Si on consulte saint Thomas d'Aquin, voici ce qu'il dit. Il est difficile de savoir quels seront les signes. Ceux que nous lisons dans l'Évangile, comme le remarque saint Augustin, se rapportent non seulement au jugement dernier, mais aussi à la destruction de Jérusalem et à cet avènement continuel par lequel le Christ visite et éprouve son Église. De telle sorte que si on y réfléchit bien, les combats, les épouvantes mentionnées dans l'Évangile se rencontrent tout au long de la vie de l'humanité. Autrement dit, n'attendons pas le dernier jour pour avoir les signes, parce que ça, c'est une remarque que fait saint Jean Bosco aux jeunes. Il leur dit, parce que vous êtes jeunes, vous avez une grande tendance à vous dire « Oh, j'ai bien le temps !» Et nous avons, nous les adultes, la même tendance, et puis nous disons « Oh, il y aura des signes !» Et à ce moment-là, il sera toujours bien temps d'aviser. Non, ces signes sont constants. Les épreuves que nous vivons aujourd'hui, comme les épreuves qu'ont vécues les chrétiens au Moyen-Âge, parce que au Moyen-Âge, ils en ont vécu, hein, c'est pas parce que les cathédrales étaient belles qu'il n'y avait pas la pression des ennemis de l'Église, hein, avec les mahométans, par exemple, et puis avec tous les ennemis de Dieu, qui travaillait dans l'ombre, mais qui travaillait. Donc toutes ces épreuves, vous voyez, sont un avertissement. Un avertissement de quoi ? Pas seulement qu'il y aura un jugement dans 20 ans, dans 50 ans, dans 200 ans ou dans 1000 ans, j'en sais rien. Et saint Thomas a raison de dire qu'il ne faut pas voir tous ces signes comme seulement les signes ultimes, mais qu'il faut les voir tous les jours. Et nous voyons bien dans les psaumes que le chrétien fait un avec Jésus-Christ, un avec l'histoire de l'humanité et l'histoire de l'Église, et que la prière de notre Seigneur sur la croix nous concerne, nous personnellement, son Église, lui-même bien sûr, et son Église, l'humanité tout entière, et que nous sommes pris. Nous sommes pris. Et cela, cette considération, l'Église nous la donne, notamment durant les ténèbres du vendredi, du jeudi, du vendredi et du samedi saint, où nous avons plusieurs psaumes qui élèvent nos pensées de la considération de la passion du Christ à une considération universelle, pas seulement du triomphe du Christ, mais de l'œuvre, une considération universelle de l'œuvre universelle du Christ et de la providence divine. Courage, mes chers amis, j'ai vaincu le monde, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Votre victoire, ce sera votre foi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.